hectares, les hectares de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédonces petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais que diable est il faire dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Il y avait des poils autres promenades,
cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du mois de mars de Scène de vie, vie de scène. Bonjour Nathalie.
Bonjour JC, bonjour à toutes et à tous. Oui, une émission de mars, encore une fois assez éclectique dans les sujets, essentiellement musical et théâtral, je dirais.
Et une fois de plus, nous prendrons le temps de vous parler de la vie de scène.
Alors justement, vie de scène.
Alors au sommaire aujourd'hui, nous parlerons comédie musicale.
Oui, c'était un petit clin d'œil et une continuité par rapport au genre, aux thématiques de genre artistique que nous avons déjà développées. Donc après l'opéra, nous parlerons de la comédie musicale. Un clin d'œil aussi à Didier Super qui signe justement une nouvelle comédie musicale.
Nous parlerons également de la pièce de Fargas.
Fargas Assendé, auteur, metteur en scène et comédien africain de Côte d'Ivoire, mais exilé au Burkina Faso, et qui sera présent sur Évreux la semaine du 12 mars.
Nous recevrons au téléphone Robert Cantarella.
Cantarella, qui est donc metteur en scène après avoir dirigé le 104 à Paris. Il retourne dans un travail de compagnie et il sera en résidence de création dès la semaine prochaine à Évreux, à la chapelle de la Cave et Boudin.
Nous ferons le tour également de l'agenda du mois de mars, une sélection de scènes de vie.
Oui, là on a fait une sélection parce qu'on n'a pas pu tout récolter tellement il y a de manifestations sur le mois de mars, qui est un mois très dense. Donc ce sera notre sélection préférée.
Nous finirons l'émission avec un tour dans la musique du monde. Ce mois-ci, nous arrêterons dans le sud de l'Espagne.
Dans le sud de l'Espagne, un peu de douceur et de chaleur cette fin d'hiver.
Et sans plus attendre, nous vous proposons notre traditionnelle prise de son.
Dis-moi, JC, où étais-tu enfermé? Dans une bulle? Dans un laboratoire expérimental sonore?
Eh bien, oui, il y avait un petit peu de ça. Nous étions au hall des expositions, c'était il y a 3 semaines à peu près, à l'occasion d'une session du groupe MLFD. Donc MLFD, notamment avec Franck Dubois qui propose les Jeudis de l'Atelier au Théâtre Mégapobec.
C'est un collectif de recherche sur la musique concrète, me semble-t-il.
Alors concrète, oui. Alors, il y a eu un échange donc avec Franck Dubois et Marc Levillain. Du coup, ils sont deux à proposer cette recherche. Dans nos échanges, il y avait une difficulté à définir cette recherche, justement. On leur a proposé, voilà, dans l'échange, plusieurs termes. Alors, musique concrète peut coller à une certaine forme de recherche, musique contemporaine. Eux-mêmes ont du mal à la définir. C'est une musique de recherche, notamment autour des textures, autour d'un nouveau son un petit peu.
On sent en fin de compte, par l'écoute de l'extrait que tu nous as proposé, c'est vraiment comme un laboratoire de recherche sur le son. On entend de la matière très, moi je dis un peu concrète, parce que j'ai l'impression qu'ils travaillent sur des éléments très concrets, pas forcément sur des instruments, non ?
Alors complètement, ils ont à leur disposition des micro-capteurs. Alors ce ne sont pas des micros comme on l'entend, microphone dont nous avons l'habitude. C'est des petites pastilles, juste la partie pastille, la capsule, ce qu'on peut appeler du micro. Alors c'est du matériel à très peu cher. D'ailleurs, il me disait dans la rencontre que nous avons eue que ce sont des pastilles à 50 centimes. C'est-à-dire que c'est du micro de base, voilà. Et pour obtenir ces sons, notamment, ils vont chercher, alors pour Franck, il travaille avec un cadre de piano où il va chercher du Larsen, il va chercher des sonorités non habituelles. Donc ils travaillent tous les deux avec un ampli type ampli de guitare sur lesquels sont reliés leurs capteurs. Et Marc, de l'autre côté, dans l'extrait que vous venez d'entendre, grattait une bouche, vous savez, les bouches d'égout, plaques en fonte, voilà. Et il cherchait des textures, une sonorité.
Voilà. Alors, on est vraiment sur la recherche sonore, vraiment et sur l'immédiateté, l'improvisation, je pense.
Complètement, oui. Ils ne savent pas à l'avance où ils vont partir, sur quel son ils vont partir. Et le lieu où se produit la session a une importance capitale dans le son qui va être produit.
J'imagine dans la halle des expositions d'Evreux, parce que là, c'est quand même un espace immense. D'habitude, quand on veut y faire des concerts, on demande une insonorisation incroyable. Là, on sent qu'il y a la résonance énorme.
Alors la résonance faisait partie ce jour-là de leur recherche. Voilà, ils cherchaient une résonance particulière, sans savoir forcément à quoi s'attendre. C'était vraiment dans l'esprit de la recherche. C'était le choix. C'était leur choix de pouvoir explorer un environnement.
Oui, comme des chercheurs, des artisans, sur la paillasse et qui vont élaborer une nouvelle matière.
Exactement.
Et sonore cette fois-ci.
Et notamment utiliser, les objets de l'environnement pour pouvoir créer un son.
Écoute, ça donne envie de développer un peu le sujet sur les musiques contemporaines et concrètes. Peut-être qu'on y reviendra sur une prochaine émission.
Alors justement, cette formation MLFD qui proposait, dont nous avons proposé un court extrait à l'instant, fera l'objet d'une émission spécifique. Alors, la date est incertaine encore, soit le 9 mars, soit le 16 mars. Là, c'est en fonction
de la grille de programmation.
Exactement. Donc, ce soit le 9, soit le 16 mars, dans l'émission L'Octroi Acoustique Club à 21h, le vendredi. Donc, restez à l'affût, vendredi 9 mars ou vendredi 16 mars, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Vous pourrez avoir 1h30 de MLFD, l'intégralité de leur session, plus les échanges que nous avons eus au micro, qui expliquent quand même beaucoup de choses. C'est une musique pas forcément... c'est une création, d'ailleurs, j'ose même pas mettre le mot musique, mais c'est une création qui demande des clés de décodage.
Tout à fait. Un petit clin d'œil musical, justement, là, à cette musique concrète et de recherche. Là, on a choisi un morceau, un extrait d'un morceau de John Cage qui s'intitule « Daughters of the Lonesome Isle ». Et John Cage, c'est aussi quand même un des pères de la musique contemporaine, élève de Schoenberg. C'est le premier musicien quand même à avoir créé un orchestre à percussion, vraiment. Donc voilà, on vous laisse l'écouter. Thank you. continue d'écouter donc un morceau de John Cage, Daughters of the Lonesome Isle. Alors, c'est une œuvre de 1945 qui au départ était destinée au piano, une œuvre au piano. On sent que c'est vraiment une musique d'atmosphère. Et donc, 1945, et cette œuvre, au départ, a été conçue, créée pour un danseur. Un danseur où c'était le début de la danse contemporaine aux États-Unis. C'était Gene Herdman, notamment. Et il faut savoir que c'est vrai que John Cage a beaucoup travaillé avec, en parallèle, l'évolution de la danse contemporaine aux États-Unis, et notamment beaucoup avec Merce Cunningham. Il signait essentiellement la musique de ses ballets. Voilà, pour le petit clin d'œil sur John Cage.
Qui nous amène d'ailleurs ce coffret, c'est ce qu'on vient de vous passer, était extrait d'un coffret disponible à la médiathèque dès que nous l'aurons rendu, Musique de notre temps.
Oui, voilà. Mais qui est assez intéressant puisque en 4 CD, vous avez un panel, un tour d'horizon sur l'histoire de la musique contemporaine, en passant de Olivier Messiaen, Boulez, Ligeti, Stockhausen, Yanis Zenakis. C'est un bon, ouais, c'est une bonne entrée en matière, je pense, pour se faire à cette musique, faire nos oreilles à cette musique, si ce n'est pas encore fait.
Musique de notre temps, disponible à la médiathèque, dès que nous l'aurons rendue. Rapidement, c'est
rapidement.
Promis.
Rapidement, enfin bon, moi j'ai envie d'écouter finalement les 4 CD, non je rigole.
Bon, peut-être pas rapidement finalement. Nous vous parlions de comédie musicale au sommaire. Eh bien, c'est le moment de vous en parler.
Oui.
Comédie musicale, un art à part entière, un style,
un genre, on va dire de spectacle vivant qui est assez finalement assez récent, mais je trouve assez cohérent par rapport au sujet que nous avons déjà présenté, notamment au théâtre, à la musique et à l'opéra.
C'est ce qui fait un petit peu le lien entre tous ces genres. Enfin,
oui,
on est proche d'un mélange.
On est proche d'un mélange des genres qui, est un art venant plus populaire, plus récent. Quoique la comédie musicale, première comédie musicale au 18e en Italie, on a trouvé un petit livret qui était intitulé Comédie musicale parce que l'histoire était très simple, mais surtout beaucoup de chansons. Et de danse, c'est ce qui caractérise essentiellement la comédie musicale hein, dans son genre scénique, c'est que l'histoire, oui, ça peut être une comédie à la base, l'histoire n'a pas vraiment d'importance, le plus important c'est de retenir la chansonnette et le pas qui va avec, donc c'est vraiment les ferments de la comédie musicale.
Alors l'âge d'or de la comédie musicale, c'est le 20e siècle notamment, oui. À Broadway.
Et notamment, c'est plutôt la culture anglo-saxonne hein, qui a développé la comédie musicale. En France, on appelait plutôt ça l'opérette, voilà, qui est un dérivé de l'opéra, mais plus, entre guillemets, populaire. Enfin, c'est un genre hein, à part entière. Mais en fin de compte, ça vient à l'origine des. Je parle en Angleterre et puis après aux États-Unis, mais de tout ce qui était les cabarets burlesques. Le burlesque et le musical, c'est vraiment de ces scènes de bars et de cabarets qui a émergé cette idée, ce nouveau genre de comédie musicale. Et puis après, aux États-Unis, avec l'arrivée du cinéma, et du cinéma parlant notamment, ça a vraiment développé le genre scénique et cinématographique.
C'est vrai que l'histoire de la comédie musicale est étroitement liée avec le cinéma.
Oui. Et oui, mais avec aussi le musical, vraiment, musical, cabaret et cinéma. C'est vrai que les États-Unis l'ont beaucoup développé pour retracer l'histoire de leur pays. Enfin, ils ont grandi en même temps que leur comédie musicale. À chaque fois, chaque histoire, chaque saison, chaque décennie, c'était illustrer vraiment aussi l'histoire de l'évolution du pays. Donc, on va dire à chaque génération sa comédie musicale, et ça dure, et ça dure.
Et puis, certaines ont marqué l'histoire. En tête, j'ai par exemple West Side Story qui a marqué
oui,
grosse empreinte l'histoire.
qui est en 1957. Et là, comédie musicale, mais la base de l'histoire, c'est dramatique, hein, c'est une tragédie, puisque c'est inspiré de Roméo et Juliette. Hein, c'est le Roméo et Juliette des Américains début des années 60. Donc là, c'est vrai que dans le genre, il y a une évolution, puisque c'est plus la comédie, c'est vraiment le fondement est plutôt la tragédie.
Et puis des comédies musicales, là j'ai en tête comme R, par exemple, qui avait des choses à raconter
sur la période aussi historique, ouais, bien sûr. Mais bien avant, il y a eu My Fair Lady, il y a eu La Mélodie du Bonheur, qui a vraiment marqué d'un point de vue aussi la scène et le cinéma américain, qui était aussi une thématique forte, hein, puisqu'on parlait quand même du fascisme et du nazisme derrière. Donc la montée des extrémistes et du totalitarisme derrière cette comédie musicale. Il y a eu des Carmen, et puis plus récemment, on est passé dans une thématique, on va dire, aussi proche de l'enfance. On a eu les Rois Lions, on a eu Peter Pan en comédie musicale. C'est aussi un genre développé pour le jeune public.
Alors, pour un public un petit peu moins jeune, une comédie musicale va nous être proposée au mois de mars au théâtre du Grand Forum à Louviers.
Alors oui, c'est Didier Super qui fait sa comédie musicale.
Voilà, qui s'appelle « Et si Didier Super était la réincarnation du Christ ?»
Alors, je ne sais pas comment le présenter. Comment vous la présentez, cette comédie musicale? Si, ça va chanter, ça va danser, ça va jouer, il va y avoir un biker sur scène, il va y avoir des peluches intemporelles. Et puis, oui, c'est un peu l'histoire d'un artiste, en fin de compte, qui n'a plus trop grand-chose à raconter dans ses chansons, mais qui décide du coup de monter sur la scène et puis de raconter des histoires. Et là, une éventuelle réincarnation possible.
Voilà, alors tout part de Didier Super, artiste rock, on va dire.
Oui, iconoclaste.
Il est difficile à définir lui aussi.
Oui, c'est scénique. Moi je dirais que c'est avant tout scénique et provocateur. Hein. C'est vraiment la provocation qui amène le propos et puis l'esthétique en fin de compte.
Voilà, et qui suite à une chute de vélo. S'ouvre sur un autre univers et sur une autre façon de voir les choses.
Voilà,
c'est le point de départ de cette comédie musicale.
C'est le point de départ où, en fin de compte, d'un accident, on bascule dans un autre monde et là, c'est la révélation. Voilà, en fin de compte, c'est comme il y a eu Newton avec sa pomme, Didier Super avec son vélo. Non, bon bref, c'est vraiment du 200e, 3000e degré sur la scène. Mais bon, ça fait du bien, quoi. Du bien. Et ça dit des choses.
Et ça dit des choses, voilà, surtout.
Voilà, donc c'était le petit clin d'œil pour aussi une certaine comédie musicale qui aura lieu donc à Louviers le 16 mars.
Eh bien, Nathalie, justement, je te propose qu'on en écoute un extrait de cette comédie musicale de Didier Super avec le titre Gauche-Droite, si
allez,
ça te va.
Bah, allons-y.
On n'aime pas trop partager. On préfère assumer tout simplement qu'on est radin. À gauche, on est tellement gentil, on voudrait tout partager, mais surtout l'argent des riches. À droite, on pense que sur la planète, la vie n'est pas possible sans la bourse. À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a pas de meilleure idée. C'est peut-être pour ça qu'on en conclut que la planète est déjà foutue. À droite, on pense que si la planète craque, eh ben c'est de sa faute, elle avait qu'à être plus performante. À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a toujours pas d'idée. Qu'on nous donne le pouvoir, et sûrement on en aura une. À droite, on s'en fout d'être malheureux, l'important c'est d'être riche. À gauche, on s'en fout du fric, l'important c'est de rien foutre. À droite, on n'aime pas trop les Arabes et les Noirs, mais tant mieux comme ça. À gauche, nous on les récupère. À droite, c'est nous qu'on a toutes les plus belles gonzesses. à gauche, on apprend à apprécier la beauté intérieure. À droite, on a besoin d'un gros 4x4 pour circuler sur terrain plat que dans les centres-villes. Et tant mieux si ça pollue, ça fait gueuler les écolos, parce que pour nous, l'écologie, en fait, c'est juste un parti de gauche. À gauche, on a des bagnoles tellement pourries qu'elles polluent plus que les 4x4. Par contre, on peut pas dire, nous, on soutient les écolos, vu qu'on répare nos carrosseries avec leurs autocollants. À droite, on pense que les pédophiles, il faut leur couper les couilles à eux et à toute leur famille. À gauche, on prend la peine de se demander si dans certains cas, ils seraient pas juste amoureux. À gauche, on est content de donner des petites pièces à des clochards et comme ça, grâce à nous, ils meurent plus lentement. À droite, on aimerait tant que les clochards y soient rentables, par exemple en vendant leurs cadavres aux usines de saucisses. À droite, on pense que les chômeurs, ils devraient pas fumer, ça donne le cancer. Et le cancer, il faut l'interdire à ceux qui peuvent pas se payer eux-mêmes leurs chimio et leurs perruques. À gauche, on pense que le cancer, ça doit être accessible à tous. Sinon c'est contraire au principe de l'égalité qui est à la base de nos valeurs républicaines. Puis là j'ai rajouté une fin. À droite, à chaque fois qu'on viole une meuf, les gens y trouvent ça franchement dégueulasse. À gauche, on viole tout ce qu'on veut, les gens y vont penser que c'était un complot.
Didier Super, gauche-droite, extrait de la comédie musicale, et si Didier Super était la réincarnation du Christ.
Voilà, donc programmé le 16 mars au Théâtre du Grand Forum.
Nous retrouvons maintenant notre invité par téléphone, Nathalie.
Oui, bonjour, bonjour Robert Cantarella.
Bonjour.
Oui, merci d'avoir accepté notre invitation pour bien nous parler, nous présenter votre travail et notamment votre compagnonnage également avec la scène nationale Évreux-Louviers et qui va s'illustrer notamment avec votre venue et dans le cadre d'une résidence sur le texte de Noël Renaud. Alors pour vous présenter, donc vous avez été directeur du théâtre de Dijon de Bourgogne, un centre dramatique national, et puis vous avez co-dirigé avec Frédéric Fiesbach le 104 à Paris.
Exactement.
Et actuellement, vous menez un travail bien de création avec votre compagnie qui va s'installer à Évreux, à la scène nationale.
Ouais. Exactement. En fait, j'ai un parcours un peu comme beaucoup de personnes, un peu, disons, atypique dans la mesure où moi j'ai été metteur en scène de théâtre et plus particulièrement d'auteurs contemporains. Et j'ai eu un long compagnonnage avec Philippe Mignana et avec Noël Renaud, puisque j'ai commencé, disons, mon travail de metteur en scène avec eux. Puis après, j'ai dirigé effectivement des lieux d'art qui, pour moi, c'était important pour qui mélangeaient les pratiques artistiques, la mise en scène de théâtre, mais le cinéma, le documentaire, le design, la musique. Mmh. Ça a été très important parce que à ce moment-là, j'ai vraiment pu, croiser des artistes de toutes disciplines et puis revoir un peu mon travail de metteur en scène. Et c'est à cette occasion-là que j'ai parlé avec Philippe de Roder, donc le directeur de la scène nationale, de mon envie pendant 3 ans de trouver un port d'attache pour faire de revenir à mes origines, c'est-à-dire vraiment aux créations de textes, avec des auteurs, mais aussi avec un public, c'est-à-dire un territoire, en disant, bon, les auteurs contemporains aujourd'hui, ce sont des auteurs qui écrivent autant des drames que des comédies, autant des pièces pour 2 ou pour 10 acteurs.
Oui, mais qu'on ne connaît pas forcément pour le public.
Voilà, qu'on ne connaît pas, et que c'est très important d'implanter dans un territoire la découverte de ces auteurs. Dans un territoire, ça veut dire à la fois faire des formes comme celle que je vais faire sur Noël Renaud, qui est une forme un peu comme ça, comme une pochade pendant 2 soirs, puisqu'on va créer cette pièce, mais on va la traiter pendant 3 ans. Chaque année, on va revenir et améliorer les trouvailles, un peu comme des chercheurs ou des laborantins.
Alors,
va se mettre au travail, et ça c'est une première épreuve, on répète 15 jours, et puis après on va faire une deuxième version en 2013 et une troisième version en 2014, pour aboutir en 2014 la création de la pièce. Mais ça me paraissait important d'associer à la création un public.
Oui, bah, disant, voilà. Justement, c'était l'idée de nous de vous inviter à notre émission parce que bah, voilà, la radio est implantée sur Évreux. Vous allez être présent pendant plusieurs saisons. C'était important pour les Ébroïciens et les personnes habitant du département de vous entendre et de vous découvrir par l'intermédiaire de cette émission.
Oui, d'autant plus que moi, le travail de répétition, ce qu'on appelle nous au théâtre les répétitions, est toujours ouvert au public. Pour moi, ça me semble très important que le public qui est curieux, la semaine dernière, on a fait par exemple un atelier avec des amateurs, il y avait une cinquantaine de personnes. Ces moments-là sont très 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 importants parce que j'associe souvent des amateurs ou des gens, des passionnés de théâtre au projet. Et c'est important, donc je vous remercie de pouvoir m'exprimer sur ce sujet parce que c'est important que les répétitions soient aussi ouvertes à ceux qui veulent venir, on peut parler. Il y a le moment du spectacle qui est très important, qui est même fondamental, c'est le moment, disons, où on découvre la pièce. Mais le moment du travail est aussi important et je pense que si on s'installe, comme on le fait pendant 3 ans, moi j'aimerais vraiment que toutes les étapes de travail soient mises à disposition aussi du public, la curiosité du public.
Et alors, donc là, concrètement, ce groupe de spectateurs, il va observer
À partir de mardi prochain, donc, on est dans le lieu de travail, à la chapelle, là, et les gens qui veulent venir viennent à 14h. Donc, on a des gens, il faut s'inscrire auprès de la scène nationale, on a déjà des personnes qui s'inscrivent. Mmh. On vient, on s'assoit, et après, je dirais, ça dépend vraiment du temps de travail. On vient et on regarde ce que c'est que répéter. Souvent, moi-même, des gens, même très proches, je suis d'un milieu dans lequel on me disait « Mais qu'est-ce que vous faites pendant 8 heures par jour ?»«
Oui.
Qu'est-ce que vous faites ?»
Et comment travaillent les comédiens et les metteurs en scène ?
Bon, donc, eh ben, c'est une occasion de venir, de s'installer dans la salle, c'est de regarder. Souvent, c'est très parfois ennuyeux, parfois jubilatoire, parfois on passe 2 heures sur un détail. Mais l'important pour moi était de permettre aux gens de venir assister à ce moment, parce que je trouve que la période de travail est une période très excitante aussi. Et surtout, après, avant de voir le travail final, si on veut venir, ben on peut passer 3 heures, 4 heures, et puis ensuite venir au moment du spectacle.
Oui, donc c'est... Mais j'ai l'impression que dans votre travail, vous réinterrogez sans cesse, finalement, la mise en scène, mais par des éléments extérieurs. J'ai l'impression, à vous entendre, que vous êtes vraiment un artiste, un créateur qui venait certes du monde du théâtre et du texte, mais avait besoin de vous réalimenter, vous enrichir au regard des autres, et je dirais au regard des autres dans différents domaines.
Moi, j'ai fait aussi des documentaires, là je prépare une fiction, un film de fiction. C'est-à-dire, par exemple, le cinéma pour moi est un art aujourd'hui extrêmement important et ça ne veut pas simplement dire mettre du cinéma sur un plateau, ça veut simplement interroger ces deux pratiques, comme aussi dans la distribution de la petite maison, il y a des acteurs qui ne sont pas justement des professionnels, et il y a aussi des acteurs qui sont un acteur qui est un spécialiste du théâtre, mais qui n'est jamais monté sur le plateau, qui est un monsieur qui a à peu près 80 ans et qui est disons le plus grand spécialiste de théâtre, ce sera la première fois qu'il monte sur un plateau. Il y a aussi mélanger, comme vous le dites, les pratiques artistiques, mais aussi mélanger les origines et éviter un peu trop les effets de famille ou les effets de reconnaissance. Je me dis que c'est important, ça aussi, au maximum, dans l'hétéroclite d'un groupe et dans l'hétéroclite des formes, essayer de trouver un monde provisoirement commun, c'est la pièce de théâtre.
Oui.
Je trouve que c'est un projet pour moi qui est très important, qui est un projet presque politique, carrément.
Mais qui est vraiment comme un monde de société finalement, où on est constitué de différentes personnes, avec chacun sa propre richesse.
Exactement.
Et justement, je reviens sur le texte et l'histoire de Noël Renaud. Je crois, alors sera-t-elle parmi vous, justement, qu'elle suit au quotidien
Elle est non seulement parmi nous, mais elle est sur le plateau. Elle aussi, pour la première fois, je lui ai demandé d'être actrice, donc elle joue. Elle joue dans le spectacle, et elle sera là. Alors on a choisi un dispositif très particulier pour cette première version, puisque sans dévoiler trop les mystères, on a décidé d'enregistrer le texte, de faire comme si la pièce était une bande-son pour des chorégraphes. Et j'ai demandé aux acteurs de travailler comme des danseurs, en fait, de faire les mouvements, comme on ferait les mouvements sur un texte. Voilà, on est parti de ça, et on va voir ce que ça va donner. Il va y avoir des modifications au fur et à mesure du travail, certaines scènes seront jouées, mais on essaie de voir ce que c'est, un peu je ne dirais pas comme un film muet, parce que ça serait trop vouloir être à la mode après le succès du film de l'artiste. Mais en tout cas, c'est surtout voir l'effet qu'il y a de distance parfois entre un texte très réaliste et les mouvements sur le plateau. Le théâtre permet ça. Parfois c'est jubilatoire, parfois c'est inquiétant. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans cette première version. Mais tout ça pour dire que Noëlle Renaud est présente sur le plateau. Elle fait partie des 10 acteurs. Je dois dire
10 acteurs, je le souligne, c'est quand même une distribution énorme pour le théâtre, je dirais, à l'heure actuelle.
Complètement. Mais vous avez raison de le dire, parce que quand j'ai proposé ce texte au départ à plusieurs lieux, on m'a dit, mais Robert, tu es fou, 10 acteurs, une pièce contemporaine. Et ça ne se fait plus. Aujourd'hui, une pièce contemporaine, c'est 2-3 acteurs. Oui. Au théâtre du Rond-Point à Paris, ils m'ont dit, mais c'est pas possible, plus de 3 acteurs, nous, on peut pas. 4 acteurs maximum et 10. C'est fini, cette époque.
Oui, donc là, on a un engagement d'une structure derrière aussi qui
voilà,
qui
alors là, je dois vraiment dire que Philippe de Reder, tout de suite, m'a dit, bah, oui, on va essayer, on va trouver 10, il faut. Moi, j'ai proposé qu'on répète peu pour que, justement, il y a des coups, que les coups soient normaux, entre guillemets. Mais on a proposé cette version sur 3 ans. C'était aussi une façon de répondre à, aujourd'hui, proposer un texte contemporain avec 10 acteurs. On ne peut pas le faire tout de suite comme ça. Donc on s'est dit, ben, c'est très bien, ça va nous permettre aussi de, justement, je reviens au début de notre discussion, ça va être aussi la possibilité de fidéliser un public qui, pendant 3 ans, si ça les intéresse, hein, va pouvoir suivre ce travail et se dire, voilà, je regarde les étapes de transformation, je peux dire aussi ce qui m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas. On a même imaginé en faire un film à un moment, je pense que je ferai une version filmée de la pièce l'année prochaine. En fait, c'est un peu aussi un compagnonnage avec un auteur. Il y en aura un autre. Mignana viendra aussi. Christophe Honoré aussi, dont je monte une pièce de lui en Avignon cet été. Ce seront des auteurs qui seront présents pendant les 3 ans. Pour moi, il y a 2 axes qui sont importants. C'est à la fois la présence d'auteurs, d'artistes, et la présence de la transmission. Comme j'ai commencé à le faire, c'est la transmission avec tous les types de publics. Ça me semble aujourd'hui mais vraiment prioritaire. Vraiment au maximum, essayer de convaincre des publics. Et pour les convaincre, la seule manière, c'est de se retrouver sur un plateau et de travailler ensemble.
Oui, voilà, et les confronter à la réalité du travail.
Et même avec des auteurs classiques. Là, j'ai présenté un texte classique il y a 3 semaines à Louviers, Hippolyte, Le Garnier. Mais il y a aussi l'idée l'année prochaine de travailler sur La Biche. C'est quand même aussi travailler sur des classiques, parce que c'est comme toujours, moi, mon professeur, c'est un metteur en scène qui s'appelait Antoine Vitez. C'est
très, oui.
très important sans cesse de faire confronter ces deux écritures, des écritures classiques aux écritures contemporaines pour le public. Donc pendant les 3 ans, on s'est dit avec Philippe de Reder qu'on allait justement faire chaque année exhumer d'une certaine manière un texte classique. Bon, ça a été Garnier cette saison. L'année prochaine, ce sera La Biche et peut-être Schiller la 3e année. Enfin, voilà, chaque année, trouver un classique.
Et en parallèle de cela, continuer aussi à travailler sur des formes, sur La Petite Maison de Noël Renaud, voilà, qui va vous accompagner, qui va nous accompagner là sur le territoire hébroïcien pendant 3 ans. Et justement, donc, cette petite maison de Noël Renaud, elle a quand même une histoire, il s'agit d'une maison quand même, habitée, traversée,
en fait, c'est
on y rencontre des gens.
L'histoire est très 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 simple, elle est même, c'est justement un peu, vous savez, c'est un peu comme les pièces de Tchekhov, souvent quand on les résume, elles se résument à des histoires fort simples, des histoires vraiment de famille, ben là c'est une maison qui était habitée par un garçon qui a décidé de la louer à une jeune fille. Et les amis de ce garçon viennent voir leur copain et se rendent compte que la maison a été vendue. Et en fait, tout le monde va tomber un peu amoureux de cette jeune fille, ou en tout cas va être comme ça, un peu émoustillé par elle ou par ses amis. Et il va y avoir une petite danse du ventre pour essayer d'avoir une aventure. Et finalement, rien ne va se résoudre. Et c'est une forme, si on devait, vous savez, comme on le fait des fois dire, comédie dramatique, ou comédie, on dirait que ça a à voir quand même avec une comédie. Puisque c'est un peu comme une coupe de l'humanité. C'est des bandes de gens qui essaient de se séduire plus ou moins les uns les autres. Et la petite maison est comme le réceptacle de tout ça. Cette petite maison dans laquelle ces garçons avaient passé des Noëls, comme ils disent, des Noëls aux bûches, où ils avaient passé des Noëls merveilleux.
Oui, parce que...
Ils se retrouvent à devoir aujourd'hui re-rentrer dans cette maison, mais ce qui les attire, c'est plus la maison, maintenant, c'est plutôt la jeune fille qui est à l'intérieur. Et chacun trouve des astuces pour essayer de se rapprocher de cette personne ou des personnes qui sont dedans. Et la petite maison, c'est un peu comme le réceptacle de tous ces désirs, en fait. Voilà.
Unité de lieu et de vie,
oui,
mais sûrement aussi une écriture de personnages assez intéressante, puisque à travers chaque, sûrement, stratégie de séduction, on découvre... On découvre des personnages, des hommes.
Après, Noël Renaud a toujours, dans chaque pièce, moi c'est la cinquième pièce que je monte d'elle, elle a à chaque fois écrit de manière toujours très particulière, justement. Mm. Alors, cette fois-ci, elle a fait une chose un peu curieuse à la première lecture, c'est qu'elle laisse ce que l'on nous, au théâtre, on a un mot barbare, pour ça on appelle la didascalie, c'est un peu un mot compliqué, mais en fait c'est l'indication pour savoir qui parle. Par exemple, si notre conversation c'était du théâtre, on mettrait entre parenthèses « dit Robert ». Et on fermerait la parenthèse. Eh ben, elle a laissé ça dans le texte, c'est-à-dire c'est comme si pendant qu'on parle, je dirais à la fin de ma phrase « dit Robert ». Et ça crée un effet de à la fois de comique et d'étrangeté que l'on, justement, on essaie de le traiter. C'est la première fois qu'elle tente ça, Noël Renaud. Donc on essaie de le traiter. C'est pour ça que c'est important pour nous de savoir que pendant 3 ans, on va travailler cette pièce. Parce que c'est aussi, pour Noël, l'occasion de vérifier certaines choses. Vous savez, souvent les auteurs, c'est ce que disait déjà, enfin c'est ce qu'on sait de Molière déjà à son époque. Il tentait des pièces, il écrivait, c'est très bien écrit dans l'impromptu, il écrit et puis il tente sur un public quelque chose. Ça marche pas, le public comprend ou comprend pas, donc on change. Et pour Noël, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle écrit, on va faire une première tentative, elle va peut-être l'année prochaine dire, ben alors je voudrais qu'on change ça, je vais modifier cette partie. Elle va aussi travailler en fonction des réceptions et de ce qui se passe
sur le plateau directement.
Sur le plateau, voilà.
Mais c'est là où on voit, c'est extraordinaire que c'est une matière vivante, c'est du vivant. Ah oui. D'avoir la chance que l'auteur soit là, présent, et puisse réagir, interagir en fin de compte. C'est vivant. Bien, je vous remercie beaucoup, Robert Cantarella, de nous avoir précisé et présenté votre travail. Et on rappelle que les 13 et les 14 mars, à la chapelle de la Cave et Boudin, vous présenterez la première étape.
À bientôt,
merci, au revoir.
Nous vous proposons maintenant une pause musicale avec The Inspecteur Clouseau.
You when you know, make
The Inspector Clouseau. Alors là, c'était un extrait de du dernier album, pas du celui qui vient de sortir là, de l'album précédent, voilà, qui s'intitulait Fuck the Bass Player. Si ma mémoire est bonne, il me fait pas défaut. Vous les retrouverez notamment Inspector Clouseau et The FB's Horns.
Yes.
Ils n'en voudront pas les Gascons de mon mauvais accent anglais. Je pense qu'ils ne doivent pas faire beaucoup mieux que moi en accent anglais de toute façon. Inspecteur Clouseau que vous retrouverez donc à l'abordage le 23 mars. Nous passons maintenant à la partie, j'ai presque envie de vous dire, engagée avec Fargas Asende.
Fargas Asende, oui. Bah oui, Fargas Asende, on voulait aussi brièvement vous le présenter parce que c'est un auteur, metteur en scène et comédien africain qui va être présent à partir du 18 mars à Évreux pour une série de trois propositions théâtrales un peu partout dans le département entre Netreville, la bibliothèque, la chapelle de la Cave Boudin et également le théâtre du Grand Forum à Louviers.
Alors avec trois spectacles différents.
Oui, qui montrent un peu son parcours et son engagement. Alors, Fargas Asende, c'est un exilé dans l'âme. Il est donc originaire de Côte d'Ivoire, mais depuis 2002, il a quitté, pour des raisons sociopolitiques, la Côte d'Ivoire. Il s'est réfugié au Burkina Faso, où il a créé là sa compagnie, la compagnie N-Senza. Et quand on est exilé, on le porte sans cesse dans son âme. Et la situation a fait que de cette situation sociopolitique, il en a vraiment nourri son théâtre et a décidé de dire les urgences et ces besoins de faire entendre vraiment les choses qui se passent dans le monde et qui sont pour lui importantes à dire également par le vecteur de la scène et du théâtre. Donc c'est un auteur vraiment engagé, puisque dans les trois propositions qui seront faites et proposées à Évreux, il a écrit notamment ce texte qui s'intitule « Petite fleur », qui est un texte sur l'inceste d'un frère envers sa sœur. Et il faut savoir que tout ce qui est inceste, viol en Afrique, c'est complètement tabou. Voilà, on n'en parle pas. C'est dans, malheureusement, c'est dans on va dire, c'est dans la continuité où on va dire les choses qui se font dans une certaine normalité finalement en Afrique, alors que c'est un tabou premier de société. Donc lui, par son texte, par son engagement, il dénonce cela. Donc sa compagnie, il y a une magnifique comédienne qui interprète ce rôle, c'est là, elle est vraiment là pour faire en sorte de libérer la parole. Ce texte, il l'a créé en stage, en atelier d'écriture, avec plusieurs personnes, en écoutant, en rencontrant aussi des femmes en Afrique, mais pas seulement aussi, puisque Fargas Asende est un homme, est un artiste qui s'ouvre aussi à d'autres mondes. Il ne reste pas seulement franco-africain, vraiment, il est un homme aussi dans le monde, et un artiste dans le monde. Donc il s'est rendu compte que ce sujet était extrêmement important, qu'il y avait cette urgence à dire les choses, et donc il a écrit ce texte qu'il a joué un peu partout. J'ouvre une parenthèse justement sur ce texte de Petite Fleur qui sera donné les 22 et le 23 mars prochain à Évreux, à la chapelle de la Cave Boudin, c'est dans la programmation de la scène nationale. Il y aura une soirée soutenue, accompagnée, en collaboration avec Amnesty International et son annexe d'Évreux. Et à l'issue de la représentation, il y aura une rencontre-débat autour de la violence faite aux femmes à travers le monde, puisque Amnesty, a développé ce sujet dans les sujets qu'ils développent et qu'ils combattent à l'année. Voilà.
Justement, alors j'en profite pour le placer. Vous pouvez retrouver l'émission d'Amnesty International mensuelle sur les ondes de Principe Active dans la catégorie podcast sur notre site internet.
Oui, c'est vrai, ils ont une émission mensuelle, je crois.
Mensuelle.
Mensuelle sur, sur la radio. Donc, c'est voilà, donc, extrêmement engagé, mais aussi dans le théâtre, hein, dans le texte, puisque dans les propositions qu'ils vous seront données, qu'ils vous seront données à voir, vous aurez également le Roi Sommeur de Eugène Ionesco, qui est un, voilà, on va dire un classique dans le répertoire théâtral, mais qui pour Fargas Assendé a vraiment un sens extrêmement politique également, parce que tous ces textes, toutes ces mises en scène vraiment ont cette dimension. Et le Roi Sommeur, quand il a lu Ionesco, il a dit « Mais Ionesco a tout compris à l'Afrique. En fin de compte, c'est ce qui se passe dans nos villages. Ce qu'il raconte dans le Roi Sommeur, c'est ce qui se passe dans nos villages et c'est ce qui se passe dans nos républiques bananières, en fin de compte. Puisque l'histoire du Roi Sommeur, c'est justement comment un roi en fin de règne n'arrive pas à quitter le pouvoir, à lâcher la place, et comment ça va être les autres qui vont eh bien, le pousser à se tuer, le pousser à partir. » Et il faisait le parallèle avec cette histoire en disant, mais en fin de compte, en Afrique, dans mon pays, hein, plutôt en Côte d'Ivoire, il y a une société qui, quand le roi ou le chef de village ne peut pas partir, eh bien, c'est sa femme, il va y avoir une mort symbolique par sa femme. Et c'est la femme qui va le tuer. Et dans Ionesco, la part de la reine est très importante justement pour la succession. Donc il a dit, mais moi ça fait tout à fait écho à ce qui se passe en Afrique, hein, quand j'ai lu cette pièce, et je vais la monter sous forme eh bien, d'un rituel africain. Donc c'est le texte de Ionesco, mais par sa compagnie Ensenza, joué par l'ensemble, par des comédiens africains, sous la forme d'un rituel vraiment, d'un rituel traditionnel d'une ethnie de Côte d'Ivoire. Donc les corps sont très engagés évidemment dans cette mise en scène. Et c'est très intéressant justement d'entendre ce texte de Ionesco en parallèle avec la forme esthétique du théâtre africain.
On ne peut s'empêcher forcément de faire le lien avec ce qui se passe actuellement, notamment au Sénégal. Enfin, c'est vraiment très ancré dans l'actualité.
Oui, oui, dans l'actualité, dans l'histoire du pays. Enfin voilà, c'est vraiment un continent qui a à chaque fois du mal à lâcher, quoi, à lâcher dans le pouvoir et à évoluer.
Eh bien oui, le temps avance.
Eh oui, la petite Nathalie. Virgule m'a surprise, mais tu as bien fait.
Le temps avance et c'est l'heure de retrouver notre agenda, notre, je ne sais pas si on peut appeler ça notre sélection, en tout
oui,
cas une proposition de spectacle vivant.
Et de sorties sur le mois de mars. Alors
faisons le tour déjà des thèmes que nous avons abordés voilà. Durant cette émission.
Donc nous avons eu Robert Cantarella avec les propositions de travail autour du texte de La Petite Maison de Noël Renaud qui sera donné donc le mardi 13 mars à 20h30 et le mercredi 14 mars à 19h30 à Évreux à la chapelle de la Cave Boudin.
La comédie musicale de Didier Super, et si Didier Super était la réincarnation du Christ, vendredi 16 mars à 20h30 à Louviers au Théâtre du Grand Forum.
Et c'est un co-accueil avec l'abordage d'Évreux hein, qui se déplace aussi au Théâtre du Grand Forum à Louviers dans le cadre aussi de la programmation scène nationale. Nous avons aussi donc, la venue de Fargas Assendé qui présentera trois formes différentes. On a donc La mémoire assiégée.
À la bibliothèque de Netreville le samedi 24 mars à partir de 15h30.
Avant cela, Le Roi se meurt, le mardi 20 mars à 20h30 et le mercredi 21 mars à 19h30 à Louviers au Théâtre du Grand Forum.
Petite fleur à la chapelle de la Cave Boudin. En lien avec Amnesty International, le jeudi 22 mars et le vendredi 23 mars.
Voilà. Et puis d'autres choses. Hein, en, voilà, je fais le petit clin d'œil en théâtre et en jazz. Vous aurez aussi à Vernon Jacques Gamblin et puis Laurent Deville qui seront présentés le dimanche 18 mars à 18h à l'espace Philippe Auguste de Vernon avec Gamblin Jazz et de Deville Sextet.
Dans les pauses musicales que nous vous proposions, il y avait Inspecteur Clouseau que vous retrouverez le 23 mars à l'abordage.
Mm-hmm. Il y a également dans la musique un concert au Cadran. Alors là, on est plus sur la musique classique. Vous pourrez avoir un concert autour de Mozart, un florilège du répertoire de Mozart, avec notamment l'ouverture d'Idomené, mais également la symphonie numéro 35, ou encore l'ouverture des Noces de Figaro. Donc là, c'est un concert classique en partenariat aussi avec les Rotary Club d'Évreux, qui sera donné le mardi 20 mars à 20h30.
Pour la scène locale, le festival Ça sonne à la porte qui se déroule au mois de juin propose un tremplin jeune pour les jeunes groupes. Alors à vous, jeunes groupes, n'hésitez pas à candidater pour être éventuellement sélectionné sur cette scène de Ça sonne à la porte, un beau festival. Vous avez jusqu'au 18 mars pour envoyer votre candidature. Vous pouvez l'envoyer à la communauté de communes de la Porte Normande, le PIC, comme on dit par là-bas, ou passer éventuellement par la gare aux musiques.
Et là, c'est quoi? C'est un dossier à remplir ou il faut envoyer une maquette?
C'est un dossier à remplir et il y aura justement, suite à ça, un tremplin. Donc, vous, public, pourrez assister à ce tremplin. Alors, je me rapproche, ce sera le 13 avril, le tremplin Ça sonne à la porte 2012 à la gare aux musiques. D'autres concerts et festivals.
Oui, oui, oui.
Je voulais vous parler du Festival des Faits Divers, festival à Louviers, gratuit. C'est un choix également des organisateurs qui se déroulera le 24 mars au Moulin de Louviers, très bel endroit. Sera programmé ce 24 mars The Ship Stranger, La Goutte, The HH Company. Il y aura également du théâtre avec le PMU, le Parti Médian Unifié. Il y aurait la compagnie Vice Versa qui proposera de la danse et du jazz manouche en ouverture avec Guitaro Jazz. Bien entendu, des expositions sur place. C'est un festival complet sur lequel on vous invite vraiment à aller tendre une oreille ou vos yeux.
Eh bien, que de propositions en fin de compte. Hein. Et encore, c'est une sélection, puisque c'est vrai que le mois de mars, le mois d'après les vacances, entre les deux vacances, c'est là où finalement les structures programment le plus.
Voilà, j'en profite pour un petit clin d'œil sur le Silo à Verneuil-sur-Avre, une salle de musique actuelle. Pour le coup, on n'a pas donné de programmation ce mois-ci. Nous allons rectifier tout ça.
Oui.
Ina Modja en concert, avec en première partie Jaouen, groupe local bien connu. Ça sera le 17 mars au Silo.
Et puis fin mars aussi, il y a un festival, je parle sur le secteur de Verneuil, hein, Verneuil-sur-Avre. Il y aura un festival de l'humour, très d'humour, notamment avec Pauline Quick qui sera donné fin mars, La Framboise Frivole. Et puis un duo de clowns, spectacle pour enfants. Voilà, je crois que c'est du 30 au 2 avril à Verneuil-sur-Avre, entre le Silo et la salle des fêtes.
Eh bien, nous avons fait un bon tour de ces programmations.
Eh bien voilà, en espérant vous retrouver la prochaine fois, au mois d'avril, avec des surprises.
Et nous allons vous quitter avec le petit tour de musique dans le monde.
Notre musique du monde.
Aujourd'hui, nous souhaitions nous arrêter en Espagne, dans le sud de l'Espagne et plus précisément en Andalousie, pour vous faire écouter un petit peu de flamenco. Alors le flamenco, c'est une musique, c'est une danse, c'est un art de vivre relativement complet. Le flamenco d'ailleurs est-on rentré il y a peu de temps dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Car c'est relativement complet. Je vous propose que nous quittions car le temps nous presse forcément, avec un titre que j'ai pas encore chargé dans notre sélection. Ça devrait prendre qu'un instant. Voilà. Nous vous proposons Pepe Marchena, Ecos del Puente de Trina.
Et bon mois.
Eh bien, nous proposons exactement un bon mois de sortie. Au mois prochain.
Au mois prochain.
Aquel que tenga familia, ay, aquel que tenga familia, que no hable más de nadie. Que no hable más de nadie, que la corte, que la larga, un debe pues casi. Dígale a aquel que tenga familia, que no hable más de nadie. Aunque di la gente me murmuró, por un tropezón que di la gente. Cuanto tropiezan y caen, no murmuro yo, que cuanto tropiezan y caen, ay, no murmuro yo. En Santa Marina entré, en Santa Marina entré, salieron los piconeros, ay, de reza San Rafael, los piconeros salieron, ay, de reza San Rafael.